Eh bien, bonjour, on est bien content que vous soyez avec nous et puis merci à toute l'équipe de Louange. On est tellement édifiés par l'équipe de Louange. Merci à toute l'équipe technique aussi. Vous savez, ce que notre monde a le plus besoin ces jours-ci, c'est vraiment de la compassion. Quand on pense à toute la question du soutien et l'entraide, il y a trois mots qui vont ressortir souvent. On parle de l'empathie, de la sympathie et de la compassion. J'aime bien la définition qu'un site donne pour la compassion que j'ai trouvée cette semaine. Écoutez bien ceci. La compassion, étymologie, souffrir avec. La compassion est un sentiment qui nous porte à être sensible et touché par ce qui arrive aux autres, leur douleur, leur souffrance, leur vécu. On ressent la souffrance. On est immergé par ce que vit l'autre comme émotion telle qu'on cherche des façons de le soulager ou de le consoler. La compassion serait en fait la transformation de l'empathie sous forme d'action. On ne reste pas sans rien faire en faisant la simple constatation du malheur d'autrui. On le vit et on cherche des solutions. La compassion exige une implication émotionnelle soutenue. Quoi qu'il est bon d'éprouver de la compassion, on ne peut pas souhaiter que cela perdure dû à la charge émotive trop intense, dit le site. J'ai trouvé d'autres définitions, des citations d'ailleurs sur la compassion. Un monsieur du nom de Mathieu Ricard définit la compassion ainsi. Il dit « La compassion est le désir profond de remédier à la souffrance d'autrui. C'est la manifestation de l'amour vis-à-vis de la souffrance. » Paula Buck, de son côté, ajoute ceci sur la compassion. « Ce sont les yeux qui ont pleuré qui savent voir le plus clair. » Ce sont les cœurs qui ont broyé en eux leur bonheur et leur égoïsme qui peuvent le mieux s'ouvrir aux autres. Une autre très bonne définition de la compassion nous vient cette fois d'un dénommé James Miles qui dit ceci, vraiment intéressant. On peut facilement deviner la valeur de quelqu'un en regardant comment il traite les personnes dont il n'a pas besoin. On est en train de faire une série sur le livre aux Hébreux et qu'on intitule « Meilleur que tout ». Jusqu'ici, nous avons parcouru près de 4 chapitres et nous voyons Jésus meilleur de tout. C'est le thème vraiment du livre aux Hébreux. Et même si le livre va tremper dans une culture très juive et qu'il faut expliquer, le thème est très simple. Jésus est meilleur que tout. Et aujourd'hui, on va regarder le passage, un passage du livre aux Hébreux. Et quand on compare ce que nous allons découvrir dans le passage que nous allons lire ce matin à la définition que James Miles nous vient de nous donner, que je répète, qu'on peut facilement deviner la valeur de quelqu'un en regardant comment il traite les personnes dont il n'a pas besoin, on arrive vite à la conclusion que Jésus est la personne la plus compatissante au monde. Personne, je dis bien personne au monde, est aussi compatissant que Jésus. Alors, laissez-moi vous lire un passage dans Hébreux, chapitre 4. Alors, Hébreux, chapitre 4, et nous allons commencer la lecture au verset 14. Hébreux 4, 14. Maintenant, le passage que nous allons parcourir ce matin, c'est le Hébreux 4, 14 jusqu'au chapitre 5, verset 10. Mais laissez-moi vous lire ici. Hébreux 4, 14. Alors, ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point de vue, comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Chapitre 5, verset 1. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension pour des personnes ignorantes et égarées puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu, comme l'a été Aaron. Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Il dit aussi ailleurs « Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek ». Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Voici le message que ce passage nous livre ce matin. Reste collé à Jésus, car personne n'est aussi compatissant que lui. Alors, verset 14, si on remonte au chapitre 4, verset 14, ça dit « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point de vue comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Alors, on ne trouvera jamais personne aussi compatissante que Jésus. Sa compassion est meilleure que tout. Rien ne se compare à lui. Jésus témoigne la plus grande compassion envers nous, car il est le très grand souverain sacrificateur. L'auteur est en train de nous dire, laissez-moi vous rappeler que Jésus est notre sacrificateur. C'est lui qui intercède pour nous en ce moment-là. Il a été choisi par Dieu pour être notre grand souverain sacrificateur. C'est le plan de Dieu. Pourtant, Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. Il n'était pas un descendant d'Aaron et c'était un prérequis dans l'Ancien Testament pour être un souverain sacrificateur. Non, il est plutôt comme Melchisédek, un bel exemple que l'auteur nous donne ici. Melchisédek, nous dit le chapitre 5, Melchisédek était à la fois le roi de Jérusalem, qui s'appelait Salem à l'époque, ça deviendra Jérusalem plus tard. Alors, Melchisédek avait un rôle vraiment particulier. Il était autant à la fois le roi de Jérusalem, mais aussi le souverain sacrificateur de Jérusalem. Voyez-vous, mais sous la loi de Moïse, ça ne pouvait pas être la même personne. Une fois que la loi de Moïse est arrivée, ça ne pouvait pas être la même personne qui était le roi et le sacrificateur. Mais Melchisédek existait bien avant la loi de Moïse. Il est le roi de Salem qui deviendra Jérusalem. Pourtant, Jérusalem n'appartenait même pas à Israël. En fait, Israël n'existait même pas. C'était dans le temps d'Abraham. Il est le prêtre de Jérusalem 800 ans avant qu'il y ait des prêtres à Jérusalem. Il est le roi de Jérusalem 1200 ans avant que David ne prenne possession de Jérusalem et en devienne le roi. Alors, il a été appointé par Dieu. Il a été vraiment appointé par Dieu. Et ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est la même chose avec Jésus. Nous sommes dans la nouvelle alliance maintenant. Et à cause de la nouvelle alliance, Jésus est à la fois roi et prêtre, tout comme Melchisédek existait. C'est comme si Dieu, souverainement, avait préparé cet homme, Melchisédek, qui arrive comme ça, pour justement préparer ce passage dans Hébreux, pour démontrer aux Juifs de l'époque qu'ils n'auraient pas compris que Jésus soit le roi et prêtre en même temps. Mais rappelez-vous de Melchisédek. Il avait été appointé par Dieu. Jésus a été appointé par Dieu. Jésus a été appointé par Dieu pour être le roi des rois, le souverain sacrificateur et qui nous représente auprès de Dieu. Il intercède pour nous maintenant comme souverain sacrificateur. Vous avez un grand souverain sacrificateur, nous dit le passage. C'est le méga, c'est le plus grand, c'est le meilleur souverain sacrificateur qu'on pourrait avoir. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur représentait le peuple. C'est lui qui allait offrir un sacrifice pour le péché du peuple une fois par année seulement. Il entrait dans le lieu très saint, dans le temple. Il n'avait pas le droit d'entrer à d'autres moments dans l'année. Personne d'autre ne pouvait entrer dans le temple, dans le lieu très saint. D'ailleurs, on cousait même, imaginez, de petites cloches sur la tunique du souverain sacrificateur, tellement que le lieu très saint, c'était particulier. On avait peur de ce lieu. Personne n'entrait là. Tout le monde avait peur de mourir. Et on mettait des petites cloches sur la tunique du sacrificateur lorsqu'il entrait une fois par année pour l'entendre bouger, pour s'assurer que Dieu ne l'avait pas tué sur le champ, tant que Dieu était trois fois saint, un Dieu inapprochable à cause de sa sainteté. Et quand il entrait, quand le souverain sacrificateur devait se rendre une fois par année dans le lieu très saint, il devait traverser trois portails. Tout d'abord, il apportait le sang à travers la porte jusqu'à la cour extérieure. Ensuite, il entrait par une autre porte dans le lieu saint. Et troisièmement, il entrait par le voile qui séparait le lieu très saint, le saint des saints. Une immense voile, 18 mètres de haut, l'équivalent de 5 étages de haut. Ce voile séparait le lieu très saint. Mais Jésus est venu. Il a dit, « Je vais enlever ta malédiction. Je vais prendre sur moi la dette qui est sur tes épaules à cause que tu as offensé Dieu. Je vais payer le prix pour le péché. » Lorsque Jésus est mort sur la croix, ce voile immense s'est déchiré de sorte que maintenant la voie était ouverte. Nous avions maintenant accès dans la présence même de ce Dieu qui était inapprochable, qui est maintenant, grâce à Jésus, un Dieu approchable. Et ça, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est grâce au sacrifice de Jésus. Jésus était le sacrifice qui nous a lavé de tout péché, qui est maintenant notre grand souverain sacrificateur, qui intercède pour nous au ciel. Verset 14, Hébreux 4, 14 dit, « Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu. » Jésus a traversé le ciel. Intéressant que l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 12 qu'il fait référence au troisième ciel. Ici, c'est littéral. Jésus aurait donc traversé les trois portails comme le souverain sacrificateur, mais les trois portails du ciel. Voyez-vous, après son sacrifice unique et parfait pour les péchés sur la croix, Jésus, notre grand prêtre, a traversé le ciel, nous dit verset 14, passant par le premier ciel, l'atmosphère, le deuxième ciel, l'espace, et le troisième ciel, le plus saint de tous les lieux, qui est la présence même de Dieu. Et là, Jésus s'est assis, ce qu'aucun grand prêtre, souverain sacrificateur, ne pouvait faire et n'a jamais fait. Mais voyez-vous, le sacrifice était parfait, il était complet, il était accepté par Dieu. L'œuvre de la rédemption était maintenant accomplie. Alors, il reste à la droite de Dieu. Il intercède maintenant pour nous, jour et nuit. Ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est que Jésus est le meilleur que tout. Et sa compassion est meilleure que tout. Il est le meilleur souverain sacrificateur que l'on puisse avoir. Il a la plus grande compassion de tout. C'est pourquoi l'auteur dira au verset 14, « Restons fermement attachés à la foi que nous professions. » Ça me fait penser à cette parole de Kent Hughes, j'ai bien aimé. Si vous traversez les moments difficiles, accrochez-vous et confessez Jésus, l'apôtre, l'envoyé de Dieu, qui a tout fait pour vous procurer votre salut. En même temps, confessez fièrement qu'il est votre grand prêtre. Affirmez-le publiquement. Faites en sorte que ce soit le refrain de votre âme. Alors pourquoi la compassion de Jésus est si grande? Bien, l'incarnation. C'est grâce à l'incarnation que Jésus a cette compassion si profonde et puissante. Verset 15, Hébreux 4 nous dit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point de vue comme nous, mais sans commettre de péché. » Voici ce que dit l'auteur. « Laissez-moi vous parler de Jésus. Il a prié dans le jardin. Il a pleuré. Il a même supplié son Père pour ne pas avoir à mourir sur la croix. » Mais il y est allé par obéissance, car c'était le plan de Dieu. L'incarnation est la raison de sa compassion si intense, si profonde. Dieu s'est fait humain. Il a parlé notre langage. Il nous a montré comment vivre. Il est venu pour nous sortir de la culpabilité, de nous réconcilier avec Dieu. Et c'est ce dont ce passage dans Hébreux 4 et chapitre 5 nous dit. Avant, vous aviez des prêtres qui étaient simplement humains. Mais où peuvent-ils nous conduire? Ils vont vous parler de Dieu, mais eux aussi ont leurs problèmes. Maintenant, vous avez un souverain prêtre qui est parfait. Il est à la fois votre roi et votre prêtre. Et ici, dans ce passage, on nous dit que Dieu est le Dieu qui a souffert, qui a prié, pleuré, comme nous pleurons parfois. C'est le Dieu qui connaît le rejet, comme nous, on peut parfois connaître le rejet. C'est un Dieu qui a connu la misère, la souffrance, la douleur, comme nous, on connaît parfois la souffrance. Dieu est devenu humain afin que maintenant, on puisse s'approcher de lui librement, tel qu'on est. Oui, il est venu sur la croix. Il est venu payer le prix pour notre péché. Il est venu pour prendre le châtiment sur ses épaules que nous, on méritait. Mais il est également venu pour vivre une vie qui lui fait comprendre comment je me sens, comment tu te sens. Si bien que lorsque tu finis ta journée, tu dis, bon sang, aujourd'hui, c'était difficile, était dur celle-là. Bien, Jésus comprend ce sentiment. Il te comprend. Jésus comprend le sentiment de se sentir rejeté. Il comprend la douleur. Il comprend le combat que tu mènes à tous les jours. Nous avons un Dieu qui s'est fait humain, qui peut compatir avec nous. On peut donc s'approcher de Dieu librement, tel qu'on est. On n'a pas besoin d'être parfait ou de se préparer avant de s'approcher de lui. On peut venir avec lui avec confiance, avec assurance. Dieu ne me dit pas, Normand, passe 3 jours à te purifier, à t'améliorer avant de venir me prier. Non, tu viens tel que tu es au trône de la grâce. Le trône de Dieu s'appelle ici le trône de grâce. Et le Seigneur ne sera jamais trop occupé pour toi. Il n'y a pas de file d'attente avec Dieu. Tu n'auras pas besoin d'attendre. Il n'y a pas de distanciation avec Dieu. Tu es proche de Dieu grâce à Jésus. Alors, approchons-nous donc du trône de la grâce. Notre grand prêtre Jésus est plein de compassion pour nous. Et le mot compassion est assez spécial ici. C'est tout à fait inusité, surtout à cette époque-là. C'était mon ami révolutionnaire. Le mot compatir, verset 15, contient l'idée de souffrir avec. Jésus nous accompagne et ressent notre souffrance. Et c'était révolutionnaire à l'époque. Voyez-vous, les religions d'époque enseignaient tout à fait le contraire, l'opposé. On enseignait que l'attribut principal de Dieu était l'apathie, c'est-à-dire l'incapacité de ressentir quoi que ce soit. Voyez ce qu'on croyait. Ils pensaient que si Dieu pouvait ressentir quelque chose, il pourrait se faire contrôler. Et à ce moment-là, il serait un Dieu inférieur. D'ailleurs, l'une des religions de l'époque disait que Dieu habitait les espaces entre les mondes, dans un détachement complet de l'être humain. Affirmer que Dieu est notre Père, notre Papa céleste, plein de compassion pour nous, et qu'il est entré dans la souffrance de ce monde, était et reste tout à fait stupéfiant. Jésus sait ce qu'on ressent. Il connaît nos luttes. Il sait par quoi on passe. Il sait ce qu'on traverse. Le regard de Jésus sur toi est profondément tendre et rempli de compassion. L'homme le plus sensible qui ait jamais existé sur la face de la terre se sent avec nous. Tu veux de la compassion? Tu vas voir quelqu'un qui te comprend? Il n'y a pas meilleur que Jésus. La compassion de Jésus est plus grande que tout. Il a la meilleure compassion de quiconque. Personne au monde ne peut avoir autant de compassion que Jésus parce qu'il s'est incarné. Il a quitté le ciel pour prendre la forme d'un homme. C'est C.S. Lewis qui a dit dans son livre « Les fondements du christianisme » « Lorsque vous enseignez l'écriture à un enfant, vous tenez sa main pendant qu'il forme des lettres. Autrement dit, il forme les lettres parce que vous l'aidez à les former. Nous aimons et raisonnons parce que Dieu aime et raisonne et tient notre main pendant que nous agissons. Si nous n'étions pas déchus, cela irait tout seul. Mais malheureusement, nous avons besoin de l'aide de Dieu afin d'entrer dans une démarche que lui, en raison de sa nature propre, ne fait jamais capituler, souffrir, se soumettre, mourir, Rien dans la nature de Dieu ne correspond à ce comportement. Si bien que cette voie unique sur laquelle nous avons besoin d'être guidés par Dieu est une route qu'il n'a jamais foulée. Dieu ne peut partager ce qu'il possède. Cet élément, Dieu ne peut partager que ce qu'il possède. Cet élément dans sa propre nature, il ne l'a pas. Mais supposons que Dieu devienne un homme et qu'il puisse fonctionner avec notre nature humaine, soumis à la souffrance et à la mort. Dans ce cas, il pourrait nous aider. Faisons abstraction de sa volonté, il souffrirait et mourrait, parce qu'il serait homme, et il pourrait le faire parfaitement, parce qu'il est Dieu. Le Dieu inapprochable de l'Ancien Testament s'est fait homme. Et là, il me dit, « Normand, je comprends ce que tu vis. » Le Dieu inapprochable est le Dieu approchable grâce au trône de la grâce, grâce à Jésus. Voici le Dieu parfait, le Dieu inapprochable, le Tout-Puissant, parfait, trois fois saint, qui est devenu un homme et qui a marché dans l'obéissance et la tentation, dans la souffrance, dans le rejet, dans l'humiliation et jusqu'à la mort. Le Dieu inapprochable est le Dieu approchable grâce à Jésus. Alors Dieu, Jésus te comprend. Il est plein de compassion pour toi. Alors, colle-toi à lui, car tu ne trouveras pas de meilleur. Personne n'a autant de compassion pour toi que Jésus. Prions, mes bien-aimés, Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier que tu es plein de compassion pour nous. Tu es rempli de compassion, Seigneur. Merci de ce que tu es notre souverain sacrificateur. Tu intercèdes pour nous, tu plaides pour nous. Tu nous as à cœur et nous voulons te louer, Seigneur, te remercier de tout cœur. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, passez une bonne semaine, les amis, et que le Seigneur vous bénisse abondamment.